Merci Steve et son équipe pour ces beaux chants. Et bon matin à vous tous, bon dimanche. Et comme j'aime aussi souhaiter buenos dias à notre familière espagnole. Alors ce matin, nous allons continuer notre étude. Nous allons continuer. On avait terminé, mais il y avait un message qu'on avait sauté. Alors, ce matin, on va y revenir. C'est le quatrième message aux églises. Apocalypse chapitre 2. Alors, je vous demande de prendre vos Bibles et trouver Apocalypse chapitre 2. Et nous allons considérer les versets 18 à 29. Et comme je vous ai dit, c'est dans le contexte des lettres envoyées aux sept églises. Et plus précisément, celles envoyées à l'église de Thyatire. Alors, nous allons lire ce texte pour ce matin, Apocalypse 2, 18 à 29. Et un texte que j'ai intitulé « Un compromis fatal ». Vous savez, on peut faire des compromis dans la vie. Des fois, dans un couple, ça peut baisser des tensions si on vient à un accord parce qu'on fait des compromis. Mais il y a des domaines où est-ce que c'est très dangereux de faire des compromis, surtout dans le domaine spirituel. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, lisons notre texte, Apocalypse chapitre 2, verset 18. Et ici, le Seigneur va dire à l'apôtre Jean, « Écris à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, d'autres versions vont dire, tu tolères, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qui mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fin, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous pouvons résumer le thème central de ce texte ce matin comme suit: un Dieu juste jugera sévèrement l'adultère spirituel parmi son peuple s'il ne se repent pas, mais récompensera pleinement ceux qui demeurent fidèles à lui. Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous trois interventions de la part du Seigneur à l'égard de l'église de Thyatire. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, considérons le contexte de ce texte. Tellement important, justement, de mettre ce texte dans son contexte. Pourquoi? Parce que ça nous aide à bien l'interpréter pour ensuite faire la bonne application. Très important. Alors, on connaît déjà le contexte géographique, historique. On a vu cela dans le passé quand on a regardé les autres lettres. Alors, je n'y reviendrai pas, mais j'aimerais focaliser ce matin sur le contexte socio-économique de cette église qui était fondée à Thyatire. Les historiens nous disent que Thyatire était une petite ville. Vous voyez ici, je vois juste les ruines. Il y a eu des excavations, là, c'est ce qu'on a trouvé, des ruines. Et cette ville, à peu près de 17 000 habitants, était célèbre pour ses artisans. Et vous allez vous rappeler que dans les Actes des Apôtres, on parle d'une certaine Lydie, qui était marchande de pourpre, mais elle venait justement de la ville de Thyatire. Et en plus de ces teinturiers, on a relevé sur les inscriptions trouvées à Thyatire les métiers de tisserands. Il y avait des tanneurs, des potiers, des cordonniers, des tailleurs, des boulangers, des fondants de bronze et des fabricants de chalcolibanos. Et ça, c'était un alliage de cuivre, d'airain et de bronze. Et c'était une spécialité, justement, ce métal-là de Thyatire. Et suivant les traditions antiques, tous ces artisans-là étaient regroupés dans ce qu'on appelle des guildes ou des corporations. Et ces guildes avaient des règles et des coutumes très strictes. Elles avaient leurs réunions régulières, leurs fêtes, leurs banquets, qui commençaient toujours par un sacrifice et une libation à leur Dieu, et qui terminaient par des pratiques immorales. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, c'est dans ce contexte que l'église de Thyatire a été fondée. Et c'est que dans ce contexte que quelques-uns de ces artisans, maintenant devenus chrétiens, doivent évoluer. Et c'est dans ce même contexte aussi que le Seigneur s'adresse à cette église. Une autre observation importante, le Seigneur vient à cette église en tant que fils de Dieu. Et c'est la seule fois que ce titre-là est mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Et pourquoi? Parce que le Seigneur veut démontrer qu'il est le juge suprême qui est supérieur à tous les faux dieux qui existaient à Thyatire. Vous allez vous rappeler que dans Jean 5, 22, le Seigneur va dire ceci: le Père a remis tout jugement à qui? Au Fils. Et la deuxième chose qu'il faut remarquer ici, que le Seigneur vient à cette église ayant les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à l'airain ardent. Et l'airain ardent qui brillait. Et justement, le mot qui est là, c'est le même mot qu'on a vu quand j'ai parlé de ces artisans, ces métiers. Et ce métal a été purifié par le feu. Ça nous enseigne justement le but juste de ce jugement. C'est parce que le Seigneur arrive pour purifier l'Église. Alors le feu, il voit ce qui se passe. Le feu qui est utilisé justement dans la fonte des métaux. Et le résultat ici, c'est pied comme justement un alliage de bronze et d'airain qui nous montre justement un Christ qui est saint, qui est pur, qui maintenant se présente à son peuple. Et comme d'habitude, le Seigneur va intervenir auprès de cette église, comme il a fait aussi avec les autres églises. Il commence par une constatation. Il va regarder ce qui est bien dans l'église et il va leur dire au verset 19: « Je connais tes œuvres. Je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Et on peut dire ce matin, waouh! Quelle belle qualité qu'on retrouve à Thyatire. Il y a des œuvres. Et j'aimerais vous suggérer que ces œuvres-là sont faites non pas en boudant, en reculant, mais par amour. Sans doute, ces chrétiens avaient de l'amour, comme nous avons entendu ce matin, c'était le thème au repas du Seigneur. Il y avait de l'amour les uns pour les autres. Prenez soin les uns des autres. Probablement aussi, cet amour était manifesté envers les gens du dehors. On pourrait dire que cette église était une église chaleureuse. Et il y avait aussi de la foi, et c'est dans le contexte ici, c'est mieux de prendre cela comme la fidélité. D'ailleurs, c'est le même mot dans le texte original. Et Proverbe 26 nous dit ceci, « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» J'aimerais vous dire qu'à Thyatire, il y en avait des personnes fidèles. Et quand il y a de l'amour, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons du service. Alors, il y avait aussi une église Thyatire, une église serviable. Comme quelqu'un a bien dit, le vrai amour est toujours prêt à servir. Et nous avons un exemple classique dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 13 va nous dire qu'il a aimé les siens jusqu'à la fin. Il a mis le comble de son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il s'est abaissé pour leur rendre service en leur lavant les pieds. Alors, il y avait une église serviable. Et la fidélité, quand on est fidèle, ça nous amène à être constant ou persévérant. Alors, c'était une église aussi qui persévérait, une église persévérante. Et aussi, la dernière chose qu'on pourrait dire, il y avait des dernières œuvres plus nombreuses que la première, mais Thyatire, c'était une église active. Ça bougeait dans cette église. Alors, le Seigneur voit toutes ces choses, ces bonnes choses. Et en passant, comme je dis, ces choses-là devraient caractériser toute église. Et ce matin, nous devrions nous poser la question aussi, est-ce que l'église de la Madeleine est caractérisée par ces belles qualités? Mais malgré cela, il manque un ingrédient essentiel, important, vital pour la vie de l'église, pour la vie de toute église, et même aussi pour la vie de notre Église de ce matin. Et qu'est-ce qui manque, qui est très important, qui devrait se trouver dans toutes les Églises? Mais c'est la saine doctrine. Vous savez, à Éphèse, on avait la saine doctrine, mais il n'y avait pas d'amour. L'Église était, comme on dit en bon québécois, bien correcte, mais bien froide. À Thyatire, c'est l'inverse. Vous avez une église chaleureuse, mais il n'y a pas de sainte doctrine. Et à cause de cela, le péché s'infiltre dans l'église. Et encore pire, le péché est toléré dans l'église. Mais celui qui a les yeux comme une flamme de feu voit le péché et il intervient maintenant pour l'exposer. Alors, ça nous amène alors à voir la deuxième intervention du Seigneur. Il y a eu la constatation. Oui, il a parlé des bonnes choses, mais maintenant, c'est la confrontation. Et regardez bien ce qu'il va dire à cette église à Thyatire, mais ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Êtes-vous surpris de voir ces paroles venant de la bouche du Seigneur? Vous savez que la parole de Dieu nous dit que Dieu agit en notre faveur, et c'est bien qu'il en soit ainsi. On est reconnaissant pour cela. Ça, c'est Psaume 57, 3. Dans Romains 8, 31, nous lisons ceci, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et aussi, on est reconnaissant pour cela. Mais le même Dieu qui a dit à cette Église, il va dire aussi à son peuple, « J'ai quelque chose contre toi. » Même s'il nous dit ailleurs qu'il est pour nous, même s'il dit ailleurs qu'il agit en notre faveur, il va dire ici à cette église, j'ai quelque chose contre toi. Et pourquoi? Parce que quand il s'agit du péché, et dans ce contexte, le péché qui est toléré, Dieu ne pourra jamais être pour cela. Et dans sa fidélité et dans son amour, il ne balaye pas le péché sous le tapis. Au contraire, comme on dirait encore un bon Québécois, il va leur exposer le péché en pleine face. Et c'est ce qu'il fait ici avec Thyatire, il dit, c'est quelque chose contre toi. Et où est-ce qu'il va commencer? Il va commencer avec la source. L'instigatrice de cette problématique dans l'Église, c'est une femme. Et son nom est Jézabel. Il est probable que ce ne soit pas son vrai nom. Parce que quel parent nommerait leur fille Jézabel? Ou quel parent nommerait leur fils Judas? Je ne pense pas. Alors, il se peut que ce soit un surnom. Mais de toute façon, cette femme agit comme une autre femme qui est mentionnée dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 21, la reine Jézabel, la femme du roi Achab, femme païenne, méchante, et elle qui a introduit en Israël le culte aux divinités païennes. Et deux choses à remarquer à propos de Jézabel. Elle se dit prophétesse, qui veut dire croire. Elle s'en est sa propre trompette. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Et même si elle était vraiment prophétesse dans le contexte néo-testamentaire, on sait qu'il y avait des prophétesses, il y avait les filles de Philippe qui prophétisaient, elle n'est pas à sa place. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Ce n'est pas mon sujet ce matin de parler de la rôle des femmes dans l'Église. Je remercie le Seigneur pour chacune de vous, mesdames, pour vos dons, pour les contributions positives que chacune de vous apporte pour le bien-être de l'Église. Et j'encourage quelques de vous tous à continuer à servir le Seigneur où il vous a placé. Dieu merci pour les femmes, nos sœurs. Mais selon ma compréhension de 1 Timothée 2:12, où Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, va dire ceci: je ne permets pas à la femme d'enseigner, dit de prendre l'autorité sur l'homme. Jézabel, dans ce contexte, est une enseignante de l'Église et pas à sa place. Et je ne veux pas que vous me mépreniez, je ne veux pas dire que la femme ne peut pas enseigner. 1 Timothée 2:3 et 4 nous dit ceci, que les femmes âgées sont exhortés à donner de bonnes instructions. C'est quoi ça? C'est des enseignements? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Et ensuite, il y a toute une liste de bonnes vertus chrétiennes que ces dames âgées avec beaucoup d'expérience, de maturité chrétienne peuvent transmettre aux autres femmes qui sont plus jeunes. Et bien sûr aussi, les femmes peuvent et doivent enseigner aux enfants. Ça peut être dans le contexte d'une école du dimanche, au foyer. Et nous avons l'exemple classique, justement, de Timothée, qui, parole de Dieu nous dit que dès son enfance, il connaissait les Saintes Écritures. Et qui est-ce qui lui a enseigné cela? Sa grand-mère, Loïs, et sa mère, Eunice. Alors, il y a de la place, justement, pour les dames à enseigner. Si vous êtes âgé, moins âgé, jeune, vous avez du boulot à faire. Et que par la grâce de Dieu, vous puissiez bien remplir ce rôle. Mais l'enseignement magistral dans l'Assemblée, devant le peuple de Dieu, on voit cela, c'est réservé aux hommes. Et il y a un contexte sur cela, vous pouvez y regarder. Le texte dans 2 Timothée continue pour donner l'explication. Mais je ne rentre pas là-dedans. Je veux parler ici de Jézabel, qui n'est pas à sa place. Elle est une soi-disant prophétesse. Et regardez bien qu'est-ce qu'elle enseigne. Verset 26 nous dit ceci: Jézabel enseigne et séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à la débauche. Et dans le texte original, nous avons ce mot porneo qui veut dire commettre la fornication. Ou ça peut être une métaphore où est-ce qu'on se livre à l'idolâtrie, adorer les idoles et aussi manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il me semble qu'il y a tellement de drapeaux rouges quand on lit ce texte-là. Une femme qui se recommande elle-même, usurpe de l'autorité, et par son enseignement, elle fait pécher, elle fait tomber le peuple de Dieu dans le péché. Il me semble qu'en lisant ce texte, on aura envie là, d'aller à cette église, de les secouer pour dire: écoute, qu'est-ce qui vous arrive? Êtes-vous endormi ou aveugle, mais allumé? Vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, qu'est-ce qui est arrivé à cette église? Comment se fait-il que Jézabel est capable, par son enseignement, à séduire les serviteurs du Seigneur? Et ça passe, comme on dit en bon québécois, là, comme du beurre dans un poêle. Mais comme nous avons vu, je vais revenir au contexte que nous avons vu dans l'introduction. Le contexte de ce texte nous aide à répondre à cette question. Parce qu'effectivement, les croyants de Thyatire étaient face à un dilemme. Pour exercer son métier, un commerçant chrétien doit appartenir à une guilde. Pas d'appartenance, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. De l'autre côté, appartenir à une guilde veut dire participer à ses réunions, ses fêtes, ses banquets, et tout cela, comme je l'ai dit, dans un contexte d'immoralité et d'idolâtrie. Alors, vous êtes chrétien à Thyatire, que faites-vous? Et voilà, Jézabel arrive à la rescousse, Super Jézabel, pour le délivrer justement de leur cas de conscience. Et nous pouvons imaginer un discours comme suit. Vous pouvez tranquillement participer aux fêtes de vos guildes. Un chrétien est un homme libre. Les idoles ne sont rien. Et de toute façon, en ce qui concerne les pratiques immorales, remarquez bien, l'esprit n'est pas affecté par ce qui se passe dans le corps. Et ça, c'est à l'époque là, c'était enseigné. Et ça, c'est le même enseignement qui se véhiculait dans l'église voisine, à Pergame. Si vous reculez quelques versets, vous allez voir à Pergame, c'est la troisième lettre. Il y avait ce même esprit, il y avait des gens, des chrétiens, qui étaient attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Et les autres, ils prêchaient la même chose. Là, c'était dans l'étape embryonique. Ici, nous avons une éclosion. Les gens se vautrent là-dedans. Ça avait envahi l'église. Il y a nommé G. Campbell Morgan a dit ceci. N'importe quelle doctrine ou philosophie qui rend le péché facile à commettre, soit en l'excusant, soit en le minimisant, soit en niant son existence, est une doctrine de démon. Non seulement ceux qui enseignent et pratiquent une telle doctrine sont coupables, mais l'Église qui ne condamne pas le péché l'est aussi. En tant que croyants, souvenons-nous qu'aucun compromis avec la doctrine de Jézabel n'est acceptable au Seigneur. Et ce que l'Église de Thyatire ne semble pas saisir en se laissant séduire, c'est qu'en acceptant ce compromis, garder leurs emplois, mais aussi rester dans l'Église, c'est ce qui rendait effectivement un culte aux idoles. Ils commettaient ce qu'on pourrait appeler l'adultère spirituel. En étant infidèles au Seigneur, ils rendaient un culte aux idoles. Et ça allait attirer inévitablement le jugement du Dieu véritable et jaloux, et j'utilise le mot jaloux dans le bon sens. Le Seigneur nous aime, mais dans cette relation de époux-épouse, il chérit son épouse, qui est l'Église. Et qu'est-ce que Ésaïe 42:8 nous dit ceci? Je suis l'Éternel. C'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et c'est pourquoi le Seigneur intervient de façon si drastique auprès de cette Église. Et ça va nous amener maintenant au jugement. Le péché a été toléré, exposé, mais le péché maintenant sera jugé. Le compromis va amener un châtiment. L'adultère spirituel toléré, maintenant c'est l'adultère spirituel jugé. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 13:4, Dieu jugera les débauchés et les adultères. Et ça, c'est dans un contexte physique. Mais c'est aussi vrai dans le contexte spirituel. Si vous regardez l'Ancien Testament, combien de fois le Seigneur accuse Israël d'être infidèle, d'être une femme adultère dans le sens spirituel. Qu'est-ce qui est arrivé avec Israël? Le jugement est tombé. Et ce qui est vrai pour Israël est aussi vrai pour l'Église. Seigneur, viens ici pour cette Église maintenant, coupable d'adultère spirituel avec un jugement. Et qu'est-ce qu'il va dire en s'adressant à la source? Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit. Avez-vous remarqué le cœur de Dieu dans ce texte? Même quand il doit exercer le jugement, qu'est-ce que le texte dit? Je lui ai donné du temps. Si la foudre n'est pas tombée instantanément du ciel pour consommer Jézabel. Et pourquoi? Parce que celui qui juge est un Dieu qui est miséricordieux et compatissant. Un Dieu qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Psaume 103, 8. C'est le Dieu aussi qui use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et vous voulez avoir des illustrations de la patience de Dieu? La construction de l'arche. Ça a pris 120 ans. Et Noé, ce prédicateur de justice, avertissait les gens du jugement qui allait venir. La patience de Dieu se prolongeait pendant la construction de l'arche. Un autre exemple aussi de la patience de Dieu, vous le voyez à Jérusalem. Ils ont mis le Fils de Dieu sur une croix. Ils ont crié, crucifié, crucifie-le. Et quand Pilate a dit, quel mal a-t-il fait, ils ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont prononcé ces paroles en l'an 33 de notre ère. Et les paroles ont été accomplies en l'an 70. La patience de Dieu, même envers ceux qui ont trouvé son fils sur la croix. Mais qu'est-ce que Jézabel fait avec cette démonstration magistrale de Dieu, de miséricorde et de patience? Ce texte nous dit, elle ne veut pas se repentir. Ça, c'est le signe d'un cœur qui est endurci. Vous savez que Dieu va dire dans Jérémie 17, le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Et j'aimerais juste vous laisser avec une petite exhortation. Même si et c'est vrai que Dieu est patient, il est lent à la colère, mais je parle à moi-même aussi ce matin, prenons garde de ne pas abuser la patience de Dieu. Vous savez, à la Barbade, j'allais dire les vieux, mais j'allais même dire les anciens, les plus âgés, là, dans mon pays, il y avait un dicton. Et je vais vous faire la traduction libre de cela. Il disait, ce qui ne t'a pas encore rattrapé ne se trouve pas en avant de toi. Ce qui ne t'a pas encore rattrapé ne se trouve pas en avant de toi. Alors, si on applique dans ce contexte, ça veut dire que si nous persistons dans le péché, même si le jugement de Dieu ne nous a pas rattrapé, il ne nous a pas dépassé. Et tôt ou tard, ce jugement-là va nous rattraper. Et Hébreux 3, 7 va dire ceci, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, crois, n'endurcissez pas votre cœur. » Et le cœur de Jézabel ici est méchant, elle rejette la patience de Dieu. Et sans doute, ce cœur va arriver à un point de non-retour, et Jézabel va récolter le jugement. Alors le Seigneur va dire, ceci, je vais la jeter sur une lit de maladie. Quelques textes vont ajouter, comme je dis, la phrase de maladie. Et l'image ici est puissante. Le Seigneur va utiliser justement le contexte d'un adultère dans le domaine physique. Il va le transposer dans le domaine spirituel. Alors, nous trouvons ces éléments-là. Celle qui est coupable d'adultère spirituel va retrouver un lit. Mais un lit de souffrance, un lit de maladie. Et le mot là, c'est de jeter là. C'est en dire en bon québécois, pitcher. Ce ne serait pas comme la déposer doucement. Là. Elle va être lancée avec violence sur un lit. Alors, on n'a pas de détails, mais on sait que le jugement va être quelque chose de terrible. Et ça va aussi avec Proverbe 29.1 qui nous dit ceci. Un homme, une femme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup. Le Seigneur va dire ceci, sera brisé subitement et sans remède. Deuxièmement, le Seigneur aussi va aller maintenant s'adresser à ceux qui ont été séduits. Comment c'est que la source? Maintenant, la deuxième, c'est ceux qui ont été séduits. Et il va tourner vers eux et ils vont leur dire, je vais vous envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Alors, ceux qui ont été infidèles au divin époux, en rendant à cause de Jézabel un culte au faux Dieu, subiront aussi le jugement du Seigneur. Et même encore ici, vous voyez, une personne adultère cherche le plaisir. Le Seigneur va dire, votre jugement, vous allez être dans la détresse. Vous allez goûter. Mais encore là, dans ce contexte, regarde bien ce que c'est écrit. À moins qu'il... Vous voyez la grâce de Dieu, la patience de Dieu, il donne encore à ces personnes l'occasion de se repentir. Et troisièmement, il va se tourner vers ceux qui ont le même sang, il parle des enfants, encore dans le même contexte de Jézabel. Et ça, vous savez, ce sont ceux qui ont été engendrés par justement cette fausse doctrine, qui croient à ce que Jézabel est en train de prêcher, Dieu comme le fait, et qui sans doute propagent aussi cette fausse doctrine parmi le peuple de Dieu. Dieu va dire, je frapperai de mort ses enfants. Et ça nous... C'est un peu en parallèle avec ce qui est arrivé avec David et Bathsheba, de cette union illicite, il y a eu un enfant, et on sait que le Seigneur n'a pas permis que l'enfant vive. Il semble que le Seigneur n'offre pas de repentance à ce groupe-là. Je dis « il semble ». Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que ce n'est pas mentionné? Mais qu'importe, nous savons que le jugement de Dieu est juste. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît les motivations des cœurs et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, chaque groupe va être jugé selon leurs œuvres, selon ce qu'il mérite. Et la dernière chose, je termine avec ceci, la consolation. La consolation. La confrontation, on l'a vu. La constatation plutôt, la première chose, la confrontation. Et maintenant, le Seigneur va tourner vers le dernier groupe. Il faut les consoler. Notre Dieu juste qui doit châtier est aussi un Dieu juste qui sait comment consoler. Le Dieu juste qui doit juger sait aussi comment récompenser et récompenser ceux qui ont refusé justement de tomber dans le péché et qui ont refusé cette fausse doctrine qui est véhiculée dans l'Église. Et c'est tellement rafraîchissant parce qu'on était dans un contexte assez difficile, le jugement de Dieu. Ce n'est pas un texte qui est facile, mais à l'intérieur de ce texte, c'est rafraîchissant de voir que même à tir, il y a un reste fidèle. Un reste fidèle. Et le Seigneur maintenant tourne vers ce petit groupe-là et il va leur dire à vous. À tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Hey, ça, c'est beau. De voir que dans cette église, au milieu de tant d'infidélité, il y a un reste fidèle. Et qu'est-ce qui les distingue? Tout d'abord, ils n'ont pas reçu la doctrine de Jézabel. On ne veut rien savoir de ça. Ils n'ont pas connu non plus les profondeurs de Satan. Vous savez, à l'époque, il y avait le narcissisme qui était là, où est-ce qu'on vous promettait justement une genre d'élévation par une connaissance supérieure. Le Seigneur va justement regarder ce que Jézabel est en train de prôner et va dire, non, ça c'est une doctrine de démon. Et au lieu d'être exalté par la connaissance, mais vous abaissez dans les profondeurs de Satan. Et j'aimerais vous suggérer comment se fait-il que ce groupe-là a pu résister. Quand ça a tombé comme les mouches là, partout autour d'eux, j'aimerais vous suggérer que ce groupe se distingue par leur connaissance. Et sans doute, ils connaissaient leur Bible. C'était impossible de leur passer un sapin. Jézabel venait avec sa fausse doctrine, séduisante, et qu'est-ce que les autres faisaient? Ils comparaient ce qu'elle disait avec la parole de Dieu. Et là, ici, vous savez, il y a tellement de prédictions pour le retour du Seigneur. En 1992, on dit l'enlèvement. Et êtes-vous prêts pour l'enlèvement? Jésus revient. Et ils ont même donné la date. Ces gens-là qui ont cru cela, ils pensent qu'ils ne connaissaient pas le but. Hein? Fait que c'est impossible, justement, à tirer, il y a des gens qui connaissaient le Bible, ils ne sont pas tombés dans le piège de Jézabel. Et la deuxième chose aussi, ces gens se distinguent, ce groupe, par le courage. Ça prenait du courage, là. C'est de dire, écoute, je suis prêt même à perdre mon emploi, mais justement, je veux rester fidèle au Seigneur. Quand quelqu'un a bien dit, devenir chrétien, c'est la chose la plus facile. Ça ne coûte absolument rien. Mais devenir l'homme ou la femme de Dieu que Dieu veut que vous soyez, ça, c'est notre paire de manches, extrêmement coûteux. Et même, comme vous savez, à travers l'histoire de l'Église, il y a même ceux qui ont payé avec leur vie. Alors, ça, c'est le reste fidèle à Thyatire. Et le Seigneur va leur dire quelque chose maintenant pour les rassurer et les encourager. Il va leur dire, et c'est tellement beau de voir ici, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'est-ce qu'il supportait déjà. Sans doute, il y avait, pour son nom, ces chrétiens subissaient le rejet, le mépris, la persécution, la pression financière. S'ils perdaient leurs emplois, alors qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile. Et Jésus est tellement un bon berger qui prend soin de ses bergers, de ses brebis, qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il va leur dire, je ne mettrai pas d'autres fardeaux sur ce bois. Ésaïe 40, 11, dit ceci, comme un berger, il paîtra son troupeau, il les prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Tellement que le Seigneur connaît nos limites, connaît nos difficultés et il est un bon maître envers nous. Alors, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir. Mais, que doivent-ils faire pour le présent? Et Jésus va leur donner une recette qui est tellement simple. Il dit, ce que vous avez là, retenez-le. Et qu'est-ce qu'ils avaient ce groupe? Mais c'était le seul groupe dans l'Église qui luttait contre le péché. Et comme Michel nous dit souvent, c'est ça la base de la vie chrétienne, c'est de lutter contre le péché. Jésus est en train de dire, comme on dit en anglais, « keep the main thing », garder la chose la plus importante en étant la chose la plus importante. Lutter contre le péché, continuer à lutter contre le péché, continuer à lutter contre le péché. Retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et ça, c'est tout un thème, la sanctification, parce qu'on va faire bien de choses pour le Seigneur. On veut être des adorateurs, on va avoir des projets, on va évangéliser. Mais vous savez, il manque l'ingrédient essentiel, c'est d'être sanctifié et une vase d'honneur que le Seigneur peut utiliser. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Mais un vase d'honneur purifié, sanctifié. Un chrétien qui lutte contre le péché. Pas dit qu'il est parfait, mais il lutte contre le péché. Il se sanctifie. Il peut être un outil puissant entre les mains du Seigneur pour accomplir sa volonté. Et qu'est-ce qu'il y a de plus motivant pour nous de lutter contre le péché en se rappelant que Jésus revient? Et vous perdez le retour du Seigneur de vue et vous allez arrêter de lutter contre le péché et vous allez suivre le courant. Vous allez tolérer le péché et même aussi en parler jusqu'à se complaire dans le péché. Alors, il va rassurer le Seigneur les brebis fidèles Et aussi, comme je dis, il va les récompenser. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Je donnerai autorité sur les nations. Alors ici, à Thyatire, ceux qui sont fidèles, ils n'ont pas d'autorité. C'est des guildes qui contrôlent tout. Jésus va leur dire, vous, un jour, vous allez régner avec moi. Et vous allez détenir l'autorité. Vous souffrez pour mon nom à cause des guildes, des corporations là, qui ont toute l'autorité. Moi, je vais vous montrer c'est quoi la vraie autorité. Je vais vous en donner. Et ça, c'est tout un revirement de la situation. Et ça va être une autorité où le péché ne sera pas toléré. Le Seigneur a dit, là, il va les briser un verge de fer. Et ça c'est correct parce que eux ils ne tolèrent pas le péché non plus. Alors, par le vie sur terre, ils démontrent qu'ils sont dignes, justement, de détenir ce pouvoir. Et la deuxième chose, le Seigneur va dire, je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est la planète Vénus, si je ne me trompe pas. Mais comment est-ce que le Seigneur peut donner une étoile du matin? Lui-même aussi, je suis l'étoile du matin. Mais, vous savez, l'étoile du matin apparaît vers, justement, le début de la journée. Et c'est ce que le Seigneur veut dire ici. Là, je vous annonce ici un nouveau jour. Qui garantit aux fidèles la fin de la nuit? Où est-ce qu'ils sont en train de subir maintenant le rejet, la souffrance et la persécution? Et le début d'un nouveau jour où règnera la joie, la paix, l'abondance. Et mettez-y, vous allez être dans le bonheur pour toute l'éternité. Alors, en conclusion, quelques exhortations, quelques applications. Pour terminer. Premièrement, je veux m'adresser à ceux qui enseignent la parole, à tous les niveaux, en privé, en public, au foyer. Prenez garde à ce que vous enseignez. Soyez soucieux de transmettre la vérité de Dieu. Jacques nous met en garde en nous disant, ceux qui enseignent dans l'Église, il dit, vous allez être jugés plus sévèrement. Alors, il faut vraiment se rappeler de cela. Alors, et ceux qui reçoivent l'enseignement, où est votre source? Il y avait dans Thyatire, il y a des personnes là, qui avaient leur source, c'était Jézabel. Et vous savez, il y a tellement de... Des fois, je frissonne. Il y a tellement de choses, c'est par de l'Internet. Il y a de bonnes choses, il y a des bons enseignements par les hommes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu, mais il y a tellement de cochonneries, excusez l'expression, là. Et des fois, des chrétiens mal affermis, là, gobent sur ce qu'ils lisent et ils sont emportés par tout vent de doctrine. Alors, avez-vous un filtre? Et ce que est enseigné, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Ce matin, je vous exhorterai d'être un Bérien. Prenez votre parole de Dieu et voir ce que vous enseigne concorde avec ce que la parole de Dieu dit. Troisième application, peut-être ce matin, vous luttez avec le péché. Et à cause de votre position que vous avez prise pour le Seigneur, vous êtes en train de payer le prix parce que vous refusez un compromis. Ça peut être aussi dans un contexte financier. À cause de vos principes bibliques, vous refusez un compromis. Mais j'aimerais vous rappeler que si vous êtes dans une telle situation, vous vous rappelez d'Élie, celui qui était capable de nourrir son serviteur pendant une famine et utiliser justement des corbeaux pour nourrir son serviteur. Il est fidèle aussi pour prendre soin de vous dans des situations difficiles parce que vous refusez de compromettre justement votre réputation. Et finalement, peut-être ce matin, vous avez besoin de vous repentir. Et ça peut être à deux niveaux. Vous êtes chrétien et vous avez besoin de vous repentir pour rétablir la communication, la communion avec le Seigneur. Et vous savez, le psalmiste a dit, sonde-moi, oh Dieu. Ça, c'est de la prière par excellence. Connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Seigneur a donné la chance, la possibilité plutôt à Jézabel et toutes ces personnes qui étaient dans le péché à se repentir. Et quand on se repent, le Seigneur nous accueille les bras ouverts. Et peut-être vous avez besoin de faire une première prière de repentance pour venir au Seigneur, pour connaître justement le Seigneur comme votre sauveur et votre Seigneur. Et si ça est votre cas, mais je vous invite de le faire ce matin. Vous savez, il y a cet homme de publicain qui était dans le temple. Il y avait un qui était là avec toutes ses bonnes œuvres. Je rends grâce à Dieu que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ici, des volants, des adultères. Moi, je fais ci, je fais ça. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, sois apaisé, miséricordieux envers moi qui suis un pécheur. Et le Seigneur a dit, celui-là leur est descendu dans sa maison, justifié. Alors, si c'est votre cas, une simple prière au Seigneur, le Seigneur entendra et y répondra. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Je te demande simplement de prendre ce texte et, Seigneur, que tu l'appliques à notre cœur. Tu es le Dieu qui aime le pécheur, mais tu es le péché. Aide-nous aussi d'être, de t'imiter comme nous avons vu ce matin. Par amour pour toi, et sachant aussi que en fuyant le péché, Seigneur, nous allons récolter tes riches bénédictions. Alors que ta bonne main repose sur ton peuple, Seigneur, sur chacun de nous. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, que tu puisses te révéler à un tel individu, afin qu'il puisse te connaître comme son sauveur personnel. C'est par ta bénédiction, nous te remercions pour toutes tes grâces et pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen.